Tribu, Julien Magnolet.
Bonjour et bienvenue dans Tribu. À quoi peut bien encore servir l'ethnologie au XXIe siècle? Aujourd'hui, la Terre a été explorée jusque dans ses derniers recoins. Il ne reste plus beaucoup de peuples inconnus, voire pas du tout. L'ethnologie, qui était la découverte et l'étude comparative de l'autre, a-t-elle encore un sens? Doit-elle se réinventer, se concentrer davantage sur le proche plutôt que le lointain? Eh bien, je vais recevoir ce matin quelqu'un qui a dû réfléchir à la place de l'ethnologie et surtout à la manière de l'exposer depuis plusieurs années. Bonjour Marc-Olivier Gonzette.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir affronté la neige pour être en direct avec nous ce matin. Marc-Olivier Gonzette, vous êtes le directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, le MEN, et un musée qui a rouvert ses portes fin novembre après des années et des années de travaux à la Villa de Puri. Juste peut-être un mot de définition, on parle d'ethnologie, le musée d'ethnographie, on parle aussi d'anthropologie. C'est quoi la différence?
Alors, on a coutume, en tout cas dans le domaine francophone, de parler de trois phases différentes de la même discipline. Le terme ethnographie concernerait tout ce qui a à voir avec le terrain, la récolte des données, que ce soit des données factuelles, des notes, des entretiens, ou des données matérielles, comme justement des objets ou une collecte d'objets. Donc c'est la raison pour laquelle on parle de musée d'ethnographie, puisque c'est, on va dire, la collecte qui est l'acte premier. La collecte à la fois de données et d'objets. Puis ethnologie, c'est un degré supérieur de théorisation. D'abord, ce sera plus seulement basé en général sur une seule société, hein, c'est celle dans laquelle l'ethnographe va travailler, parce qu'il est condamné à être dans un lieu quand il fait une collecte. Alors l'ethnologie, elle va plutôt, elle, essayer de comparer un certain nombre de données et de recherches qui ont été faites sur plusieurs territoire et puis arriver à en tirer des règles qui seraient valides pour des populations plus importantes que simplement le village peut-être dans lequel a eu lieu la récolte. Et l'anthropologie, alors ce serait, en tout cas selon Lévi-Strauss, l'usage d'à peu près toutes les données plausibles. Alors on peut ajouter la linguistique, on peut ajouter la psychologie, on peut ajouter la géographie, pour finalement essayer de parler de l'homme en société à travers un peu toutes les données récoltables. Donc ce serait le point de vue le plus large et le plus alimenté possible.
Donc la mère de toutes les sciences sociales ou humaines.
Dans une certaine mesure, on pourrait parler d'une anthropologie comme une espèce de grand tout qui engloberait toutes les sciences humaines. Bon, en principe, c'est très souvent utilisé comme synonyme d'ethnologie, parce qu'on parlera, par exemple, dans le domaine anglo-saxon, d'anthropologie culturelle. Et il s'agit en fait surtout de ces données de terrain qui sont mises en place et théorisées.
Alors on l'a dit, l'ethnographie et l'ethnologie aussi, c'était souvent un peu l'étude des cultures dites primitives. Hein. Aujourd'hui, un peu l'archivage des sociétés non occidentales a été fait, plus ou moins. Il reste bien sûr peut-être quelques poches à expérimenter. Est-ce que l'ethnologie a encore quelque chose à dire aujourd'hui au XXIe siècle?
Alors, je précise tout de suite que j'ai fait mes études dans un contexte, c'est-à-dire Neuchâtel, où la question d'ici et ailleurs a toujours été posée différemment. Pierre Sanslivre, qui opérait avec Jacques Hénard à l'époque, Jacques Hénard étant chef de travaux de l'Institut, avait fait de l'ethnologie du proche quelque chose de tout aussi important que cette ethnologie exotique.
Ça, c'était novateur, parce que vous parlez quoi, des années 70, 80?
C'est le début des années 70. Et les premiers séminaires auxquels nous nous sommes confrontés en tant qu'étudiants, c'est des séminaires qui se passaient autour du camping, ici autour de l'alimentation, dans les zones rurales tessinoises ou jurassiennes. Et donc, en fait, il n'y avait pas du tout ce grand fossé entre une ethnologie qui regardait l'autre de loin et puis une sociologie qui nous regarderait nous. Les deux étaient en interaction très forte. Ce qui fait que, encore tout récemment, on a demandé à une personne de mon équipe d'aller faire de l'ethnographie participative dans une fondation, la Fondation Sando, à la Chaux-de-Fonds. Fondation qui s'occupe de jeunes en difficulté, et puis une personne de mon équipe a passé plusieurs mois, a rendu, en fait, si vous voulez, une sorte d'ethnographie, puisque c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre dans la définition de l'ethnographie, c'est que La théorie première, elle se fait avec les gens. C'est une théorie du contact. Et ce contact, il est alimenté par une manière qu'on appelle l'observation participante. Ça va plus loin que la simple observation dans la mesure où il vous faut essayer de tenir un rôle, tenir une place à l'intérieur de la structure que vous étudiez. Mmh. Mais ça ne se fait pas à l'insu des gens qui sont là, comme un certain journalisme d'observation ou d'investigation, hein, où la personne se fait passer pour quelqu'un qui travaillerait dans la structure. Non, ça se fait à visage découvert et ça peut donc à la fois s'alimenter des observations et en même temps des entretiens que vous pouvez susciter autour de votre intérêt.
Mais vous dites donc que ce tournant, il a déjà été pris, si on veut bien, de désexotiser l'ethnologie dans les années 70 avec son livre Hénard. C'était quoi l'observation? C'est que déjà, on était au bout du monde, si on veut bien. On avait fait le tour un peu des civilisations dites premières et qu'il fallait maintenant s'occuper d'autre chose. Ou alors que, je sais pas, c'était post-68 tard, il fallait s'occuper d'ici et pas d'ailleurs. C'était quoi l'observation à ce moment-là?
Non, c'était, je pense, lié à ce que je pourrais appeler la réflexivité, c'est-à-dire le fait qu'on est tous trempés dans un univers culturel qui pose une grille devant vos yeux. Et donc, quelle que soit votre position dans le monde, le but premier, c'est d'interroger cette grille. Alors, l'ethnographie ou l'ethnologie, elle bénéficie justement de cette expérience multiple qui lui est rapportée par des chercheurs pour se rendre compte, pour relativiser nos croyances et nos perspectives. Et le fait de se rendre compte que dans notre propre société, tout ce qu'on considère comme naturel, en fait, c'est du construit, eh bien, c'est une expérience fondatrice pour une discipline. Donc, il ne s'agit pas tellement de l'ici et de l'ailleurs, il s'agit de l'humain où qu'il soit. Et en se rendant compte que la démarche la plus intéressante que vous pouvez faire, c'est déconstruire votre grille pour en fait construire quelque chose de plus ouvert ou de plus compréhensif.
Marc-Olivier Gonzette, où est la différence finalement avec cette ethnologie du proche, avec la sociologie? Parce que la sociologie fait aussi un peu ça. Vous parlez de cet étudiant qui va peut-être plusieurs mois dans une fondation qui s'occupe de personnes en difficulté. Eh ben, la sociologie pourrait aussi le faire. Donc, c'est quoi? Avant, l'ethnologie, si je schématise, c'était l'ailleurs et la sociologie, l'ici. Et maintenant?
Alors, vous touchez ce qu'on pourrait appeler des zones de contact. Moi, j'ai utilisé dans mes études aussi bien la linguistique qui nous offrait des théories autour de la communication. On a appelé même cette discipline l'ethnographie de la communication, analyser les situations de parole. Et j'ai aussi utilisé, à peu près dans la même ligne, un sociologue qui s'appelle Erving Goffman, qui est un spécialiste de la micro-sociologie des interactions, c'est-à-dire part de l'idée que n'importe quelle situation sociale est structurée et que toute personne dans cette situation émet des messages qui sont analysables et compréhensibles par tous à partir du moment où on a compris la grille. Et donc, en fait, le sociologue qu'est Goffman, c'est une sorte d'ethnographe de la communication dans ma propre société. Mais pourquoi? Parce qu'il se contentera de situations précises, un peu comme le fait l'ethnographe. Il va pas partir sur une population extrêmement vaste à laquelle il va poser des questions à travers un questionnaire. Il va partir également d'une situation relativement étroite, en passant beaucoup de temps avec ces personnes pour reconstruire le système de communication en question. Donc vous êtes quasiment un voisin immédiat du mode ethnographique. Donc si vous voulez, c'est plutôt une sociologie qui prendrait du temps et qui se contenterait de situations relativement précises pour développer un propos, serait très proche d'une ethnographie.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi la question du moi, parce que vous l'avez dit, il y a une immersion longue, ça c'est typiquement chez les ethnologues et les anthropologues, une immersion longue sur un terrain, et vous dites, non seulement on observe, mais on participe, on paye de sa personne, ce serait peut-être ça une des différences entre sociologie et ethnologie?
Oui, sauf que certains sociologues pratiquent tout à fait aussi cette ethnographie participative, parce qu'ils connaissent le mode de fonctionnement de ces enquêtes qualitatives. Hein. On oppose en fait le qualitatif au quantitatif. Le qualitatif, c'est du temps long et évidemment une population restreinte, parce que vous ne pouvez pas passer longtemps avec énormément de gens. Et puis l'approche quantitative sera plutôt beaucoup de gens, mais que vous contactez dans un temps très court pour obtenir des réponses beaucoup plus pragmatiques. Mmh. Alors ces deux modes, évidemment, ils sont complémentaires. On va pas remplacer l'un par l'autre. Mais une des raisons pour lesquelles je trouve l'ethnographie fondamentale, c'est qu'elle part de situations très simples, en immersion profonde, et donc qu'elle permet d'aller dans des couches extrêmement subtiles des rapports entre les gens.
Je parlais de colonialisme tout à l'heure, Marc-Olivier Gonzette. Quand même, l'ethnologie ou l'ethnographie, voire l'anthropologie, il n'y a pas comme ce soupçon de colonialisme derrière ça. Oh, regardez comme ces gens font à manger. Oh, regardez quel objet tout joli ils utilisent pour tel ou tel enterrement ou telle naissance.
Oui, ben, le colonialisme, c'est un moment de l'histoire des rapports sociaux entre l'Occident et l'ailleurs qu'il faut affronter, spécialement dans un musée d'ethnographie, qui, même si la Suisse n'est pas colonialiste, elle a quand même, dans un certain nombre de missions, vécu dans un monde marqué par le colonialisme. Et notre intérêt à nous, c'est de ne pas évacuer ces questions, admettre qu'effectivement, il y a un certain nombre de collections qui sont arrivées chez nous à une époque où les rapports étaient très inégaux entre les États. Mais c'est pas une raison pour jeter aujourd'hui ces collections ou les rendre de manière arbitraire à une population ou une autre. On a la chance d'avoir quelque part récolté et mis à l'écart d'une certaine forme de destruction un certain nombre d'objets d'une importance capitale pour l'histoire d'un certain nombre de populations. Nous en sommes les dépositaires transitoires, puisque les musées, c'est pas du tout le statut des objets de musée, il n'est pas défini pour l'éternité. Et nous savons très bien que les rapports pouvant changer, enfin, qui peut dire quelle sera la situation dans une centaine d'années au niveau d'une éthique autour de ces collections.
D'ailleurs, ça a déjà commencé à changer. Il y a pas mal d'objets qui repartent en direction des pays d'origine.
Alors, tout ce qui est de l'ordre de la spoliation et tout ce qui est de l'ordre de demande de restitution légitime doit, à mon avis, faire l'objet d'un examen attentif des institutions concernées, et puis ensuite devenir un mode de rapport et de relation, enfin enrichir, si vous voulez, un mode de relation. On serait quelque part dans une sorte de variante de l'ambassade ou de la diplomatie avec ces objets. D'ailleurs, dans notre exposition récente, nous avons analysé un peu la manière dont certaines collections sont arrivées chez nous. Elles sont arrivées parce que il y avait une volonté de créer une relation et de faire passer un message. Mmh. Eh bien, ce message, il peut être inverse. J'aimerais juste vous raconter une petite anecdote. C'est à propos d'un objet qui s'appelle Tête de Monet, qui appartenait à un clan de Nouvelle-Calédonie, qu'un missionnaire a ramené, il s'appelle Lennart, qu'il a ramené à Neuchâtel. C'est un objet fondamental, parce que c'est un objet qui circulait à travers les clans pour marquer, en fait, des relations entre ces clans. Et on nous a demandé de le restituer là-bas pour un certain nombre d'expositions. Et les anciens sur place l'ont vu et ont discuté de cet objet en décrétant que à la fois c'était génial de le voir parce qu'on sentait comment les ancêtres avaient vécu et sculpté cet objet, puis en même temps c'était génial de le voir repartir parce qu'il était un ambassadeur du brouillard blanc à Neuchâtel. Et ça, je trouve, c'est une magnifique vision, en fait, de ce que peut être un rapport aux objets, c'est-à-dire ces objets qui sont à la fois des témoins qui circulent et des ambassadeurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez proche de la manière dont les Océaniens pensent une certaine circulation des objets. Et elle se reflète dans cette non-appartenance acharnée autour de cet objet, mais dans cette volonté de continuer l'objet-relation, si vous voulez. Et ça, je crois que nous devons en tenir compte et essayer d'adopter une attitude comparable. C'est-à-dire ne pas nous attacher aux objets dont nous avons la garde, mais être d'accord d'en faire encore des émissaires.
Mais Marc-Olivier Gonzette, est-ce que ça ne doit pas aller jusqu'à une certaine proactivité? Les entités qui sont le plus au courant d'objets qui ont peut-être été spoliés, volés, c'est quand même parfois les musées ou les fondations. Est-ce que c'est pas parfois à vous de prendre les devants puis d'aller vers telle ou telle tribu ou gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou au Brésil pour dire, écoutez, nous on a ça, est-ce que vous voulez le récupérer? Je sais que c'est peut-être dur quand on est conservateur ou directeur d'une institution, mais est-ce que ça doit aller jusque-là?
Alors, je ne l'exclus pas dans un certain temps, une attitude plus proactive, même notamment si c'était autour d'objets qui vous posent problème, qui manifestement sont là pour des raisons qui ne sont pas tout à fait éthiquement défendables. Mais en revanche, notre travail, comme je l'ai expliqué, c'est un travail de mise en valeur, un travail de protection. Mmh. Un travail de discours autour de ces objets. Et notre mission sur Terre n'est pas de restituer un objet à son propriétaire légitime. C'est à ce propriétaire légitime de se signaler au cas où Il estime effectivement avoir non seulement un droit, mais peut-être un devoir autour de cet objet. Et ensuite, nous tombons dans des négociations de devoirs partagés. C'est là que je dis que nous ne sommes pas arrimés à nos objets, mais il ne s'agit pas non plus de les rendre de manière absurde, non seulement peut-être parfois à des gens qui auraient des demandes illégitimes, mais peut-être justement pour cesser cet aspect de propriété personnelle ou propriété clanique, pour admettre que ces objets ont passé à un autre niveau, qu'une sorte de patrimoine mondial, et se donner les moyens alors de les faire circuler à nouveau. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous accordons une importance énorme aux bases de données, parce que la documentation que nous pouvons diffuser sur le net à propos de nos collections, c'est le premier message que nous pouvons restituer, si vous voulez, à toutes les populations qui seraient intéressées par des objets qui ont été collectés sur leur territoire. Donc, notre premier devoir, je pense, c'est pas de chercher les propriétaires, c'est de documenter intelligemment non seulement l'origine, mais peut-être les trajets que ces objets ont eus, essayer d'en restituer la portée symbolique, dire pourquoi ils sont importants pour nous et admettre qu'ils puissent être importants pour d'autres.
Marc-Olivier Gonzette, nous parlons de l'ethnologie au XXIe siècle avec vous. On va partir au bout du monde et on vous retrouve juste après.
Toutes ces femmes que je n'aurai jamais, tous ces pays que je ne verrai pas, toutes les lumières des villes, tous ces matins qui se lèvent, tous ces amours que je ne vivrai pas, tous ces gens que je ne connais pas, toutes ces étoiles inconnues, toutes ces lumières filantes, toutes ces secondes qui filent, emportant mon éternité, emportant mon éternité. Au bout du monde, au bout du monde. Au bout du monde. Toutes les mers, tous les ciels bleus, au bout de tous ces horizons, ces forces qui me manquent, toutes ces fins du monde, quand un homme s'en va, quand un homme s'en va, tous ces destins, tous ces possibles, toutes ces villes au bout des routes, toutes ces chances, tous ces peut-être, peut-être tout au bout des étoiles.
Nicolas Repac qui nous a envoyé, emmené plutôt qu'envoyé au bout du monde. On vous retrouve, Marc-Olivier Gonzette. Nous parlons de l'ethnologie au XXIe siècle. On a parlé de Claude Lévi-Strauss qui se considère comme un anthropologue, qui a été une figure marquante, qui a vécu 100 ans. Je crois qu'il est mort à l'âge de 100 ans. On a comme ça l'impression que des voix comme la sienne, on en entend moins. On a moins d'anthropologues ou d'ethnologues stars qui entrent dans le discours public. Vous le regrettez, vous? Vous dites, ma foi, c'est comme ça, restons discrets, ça va très bien, on nous fout la paix.
On ne peut que regretter l'absence d'un géant comme Lévi-Strauss. Il y a encore des personnalités marquantes dans le domaine de l'anthropologie, elles sont moins peut-être connues par le grand public.
On a reçu Philippe Descola, par exemple,
voilà,
un de ses successeurs au Collège de France.
Exemple. Mm-hmm. Godelier, toujours oui. Aussi vivant, Marc Auger, puis aussi l'anthropologie américaine.
Oui, mais toutes ces personnes commencent à avoir un certain âge.
C'est juste. Alors, moi aussi. Donc,
ces personnes ont plus de 80 ans.
Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vécu aussi avec cette génération-là comme étant mes penseurs, en fait, de référence. Je pense que quelqu'un, un jeune ethnologue qui commence ses études aujourd'hui, il aura une plus grande richesse à la fois au niveau du territoire qu'est l'anthropologie, parce que maintenant ça s'est fractionné en de très nombreuses micro-alliances, par exemple une alliance entre l'ethnologie et la biologie, qui est extrêmement prolifique. Et donc il aura peut-être davantage de choix, de croisement de thématiques et de définition de son terrain, mais peut-être moins ces grands guides charismatiques qui nous portaient finalement et qui portaient la discipline. Mais est-ce qu'il faut le regretter? Je suis pas complètement sûr, parce que les grands guides parfois ils cachent aussi une forêt de petits travailleurs qui amènent tout autant à la discipline. Je crois donc à une discipline collective aujourd'hui, beaucoup plus collective, et peut-être qu'il y a moins besoin de ces leaders charismatiques.
Marc-Olivier Gonzette, on l'a dit, vous êtes le directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, qui a été en travaux pendant des années, qui vient de réintégrer la villa de Pury. Comment est-ce que vous avez fait justement par rapport à ces objets anciens, par rapport à... comment est-ce que vous exposez l'ethnologie ou l'ethnographie maintenant?
Alors notre vision pour cette exposition, ça a été d'approcher autant d'espaces que nous avions à disposition dans la villa que de dossiers particuliers liés à nos collections. Il s'agissait d'entrer, si vous voulez, à la fois par des thématiques transversales, donc qui nous évitent après de parler simplement des objets de telle ou telle région du monde ou de telle ou telle période, mais essayer de les associer à des thématiques fortes. Alors j'ai donné l'exemple avant d'ambassade, c'est un des axes. Donc si vous voulez, ce terme d'ambassade recoupe tous les objets qui sont arrivés au Maine par des voies diplomatiques et nous donne la possibilité d'analyser les raisons cachées et les raisons évoquées pour que ces objets prennent place dans nos collections. Donc on a du caché et du montré, si vous voulez, aussi de la diplomatie muséale. Ce qui est fascinant, dans un autre espace, on s'intéresse aux conditions d'acquisition des objets. C'est-à-dire, c'est quoi finalement le mode d'obtention de nos collections? On pourrait penser que c'est systématiquement des ethnologues qui vont sur le terrain, qui passent de longs mois et qui, après une relation de confiance, arrivent à acheter ou à négocier un certain nombre d'objets. Ben, ça, c'est la part minimale de ce qui nous occupe. On constate après, quand on étudie nos dossiers, que on a bénéficié de toute une série de médiations avec des marchands, avec des missionnaires, avec des voyageurs, même des employés de l'administration coloniale, qui, d'une manière ou d'une autre, sont arrivés à Neuchâtel en faisant des propositions et qui ont obtenu l'adhésion, en fait, des directions en place pour telle ou telle raison. Mmh. Par exemple, il y a un certain nombre d'objets qu'on pourrait considérer comme assez kitsch, qu'on appellerait art d'aéroport, qui ont été acceptés par Jean Gabi.
Boulaneige.
Non, il s'agit de sculptures africaines qui sortent complètement des canons de la sculpture locale pour entrer dans ce mode un peu, on peut dire, international du sculpteur sur bois. Et Gabu a décrété que c'était intéressant aussi de conserver ces objets-là, qui étaient d'abord de bonne facture, même si on pouvait les considérer comme déviants par rapport aux normes, mais surtout que c'était des indicateurs d'un monde en train de changer, donc en fait d'un monde en train de se globaliser. D'autant que la personne qui avait ramené ces objets était un représentant des machines à coudre Elna dans les régions en question. Donc on était, si vous voulez, dans une espèce d'échange qui marquait que nous avions changé d'époque.
Un peu comme les boîtes de conserve d'Andy Warhol qui montraient qu'il y a aussi, une beauté, et ça peut être de l'art, d'avoir des objets très communs.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, à Neuchâtel, nous accordons une importance aux objets pour la signification qu'ils peuvent donner, et non pas tellement à leur valeur marchande. Un des derniers objets qu'on a acquis via Internet, du reste, c'est une coiffe Kayapo, donc d'Indien d'Amazonie, mais faite en paille en plastique. Donc au lieu d'être en plume, c'est des pailles.
Des pailles. Bon, merci beaucoup. C'est intéressant, ça, effectivement. Il faut être ouvert qu'on dirige un musée d'ethnographie. C'est votre cas, Marc-Olivier Gonzac. Vous êtes le directeur du MEN, donc musée d'ethnographie de Neuchâtel. Merci beaucoup d'être venu affronter les frimas, d'être venu en direct ce matin avec nous. Bonne suite de journée.
Merci.
Et bonne remontée du côté de Neuchâtel. J'espère que vous avez pris des bonnes chaussures. Et que la route va tenir.
C'est le cas.
C'est le cas, c'est bien. Merci beaucoup à Isabelle Barthes qui était à la technique ce matin. Demain, nous parlerons de la parole et du silence. Tiens, ça c'est aussi intéressant du point de vue ethnologique. Mais là, vous avez rendez-vous avec Laurence Bizang et ses décodeurs qui sont en direct depuis la place centrale à Lausanne pour l'opération Cœur à Cœur. D'ailleurs, si vous êtes à Lausanne, vous pouvez vous y rendre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente suite de journée.